Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes étudiants ou futurs étudiants et cherchez votre filière d'études supérieures. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Tour, c'est la station qui va vous aider à trouver votre voie puisqu'on couvre ces journées portes ouvertes de l'université François Rabelais. Alors, il est temps maintenant de vous présenter un immense pôle de notre université. Je parle de la Faculté des Deux Lions. Alors, pour rappel, la Faculté des Deux Lions, qui se situe, comme son nom l'indique, au quartier des Deux Lions, vous fait une présentation des études et de la vie universitaire de 9h à 16h au hall du bâtiment B. Vous verrez, c'est assez simple de le trouver. À l'entrée, c'est celui quand vous êtes face à l'entrée sur la droite. Les animations qui restent ce matin de 11h à 11h30, une simulation de cours de droit civil dans l'amphi C, bâtiment A. De 11h30 à midi, une simulation de cours d'économie dans le même bâtiment et le même amphi. Cet après-midi, il y aura de 14h à 14h30, une simulation de cours de droit constitutionnel. De 14h30 à 15h, une de droit civil. Et de 15h à 15h30, une d'économie. Voilà, si vous êtes intéressé pour venir visiter vous-même, mais vous pouvez aussi rester à l'écoute de notre radio puisqu'on va vous présenter cette faculté. Pour ça, je reçois la professeure Ophel à la faculté, une professeure de droit privé et doyenne honoraire. Alors, qu'est-ce que ça signifie, doyenne honoraire?
C'est pour dire ancien doyen, pas pour dire vieux, mais ancien doyen. Ça veut dire que j'étais le précédent doyen de la fac. Et doyen, ça veut dire directeur du FR, c'est-à-dire la personne qui a été élue avec une équipe pour tenter d'organiser au mieux la vie de la faculté, les diplômes, etc. etc.
Alors, pour les lycéens qui nous écoutent, on peut leur dire il y a une majeure différence entre le lycée et la faculté. C'est qu'au lycée, quand on va dans le bureau du directeur, on n'est pas content. À la fac, si on arrive à aller dans le bureau du doyen, c'est le graal absolu.
D'abord, les doyens ne sont pas des personnes barricadées dans leur bureau.
Non, elles sont accessibles.
Mais... voilà, dans la plupart des cas, la porte est ouverte pour les collègues, pour le personnel administratif lorsqu'il y a... soit des choses gentilles à dire, soit au contraire des reproches à faire. Et puis pour les étudiants, pour que nous puissions avoir un retour très rapide, soit du malaise, soit au contraire, éventuellement, des compliments que les étudiants pourraient nous donner. Surtout le malaise, d'ailleurs.
Vous en avez beaucoup, des retours de ce genre ?
Oui, enfin, mon expérience pendant 5 ans là, de doyen m'a permis de voir à quel point il était essentiel justement d'avoir cette relation directe avec les étudiants, et ils sont souvent venus, soit tout seuls, soit en délégation, pour m'informer et nous informer de choses que nous ne pourrions pas connaître sans leur intervention. Et donc c'est essentiel pour la vie des étudiants et pour nous adapter à cette vie-là, d'avoir cette relation aussi directe que possible.
Voilà, c'est important de préciser que oui, à la faculté, on n'est pas totalement lâché. Alors justement, on va parler de système faculté. Alors pour un lycéen, lui, il n'a vu la fac que dans des comédies musicales américaines. Alors comment est-ce qu'on peut lui donner une idée des changements que ça représente, de l'évolution du fonctionnement assez globalement?
Alors tout d'abord, ne pas se fier aux séries américaines. D'abord parce qu'elle ne représente pas même pas la réalité américaine, mais surtout parce qu'elle ne représente pas du tout la réalité française. Nous sommes encadrés, nous encadrons les étudiants qui peuvent pas faire n'importe quoi. Alors, il y a évidemment une grande différence de timing, d'emploi du temps et d'investissement personnel entre les études secondaires et les études universitaires. C'est d'ailleurs pour ça, et c'est pour ça que les futurs étudiants, et c'est pour ça qu'il est important qu'aujourd'hui les futurs étudiants viennent nous rencontrer aux journées portes ouvertes, il est essentiel de comprendre que même s'ils sont encadrés, ils vont apprendre à l'université à se prendre en main. C'est vraiment un saut de maturité qui n'est pas toujours simple la première année, hein, et c'est pour ça que nous avons mis en œuvre, comme vous le savez, mais on va peut-être avoir l'occasion de le redire, tout un tas de mécanismes pour les aider à cet apprentissage-là, de l'autonomie. Voilà, l'autonomie, ça va être un maître mot qui va monter en puissance d'année en année.
Alors précisons-le, le système, pour vulgariser, le système fac, c'est très différent du lycée, les cours ne sont pas obligatoires. Le travail personnel monte considérablement.
C'est sûr.
Et donc justement, par rapport à ça, est-ce que vous trouvez que c'est dur de s'habituer au système fac et quelles qualités on doit avoir pour parer cela?
Alors, dire que c'est dur ou pas dur, ça dépend vraiment de l'évolution personnelle de chaque étudiant. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est avoir cette prise de conscience en arrivant très vite, parce que les années universitaires, comme vous le savez, se déroulent avec une rapidité déconcertante, et qu'il faut donc, dans les premières semaines, prendre conscience justement des exigences du monde universitaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a, depuis quelques années maintenant, introduit dans le premier semestre de la première année un système de tutorat, c'est-à-dire que des anciens étudiants, enfin des anciens étudiants de première année, c'est-à-dire des étudiants qui sont en deuxième année ou en troisième année, rencontrent périodiquement les nouveaux étudiants, ce qu'on appelle les néo-bacheliers, c'est très joli comme terme, donc ceux qui découvrent le monde universitaire et répondent à leurs questions et leur prodiguent un certain nombre de conseils pour éviter les nombreux pièges de l'université. Alors, quand je dis pièges de l'université, c'est en effet, les cours sont pas obligatoires. Les cours en amphi, attention, attention, attention. Les cours en amphi ne sont pas obligatoires.
Il y a aussi des cours de travaux dirigés
Voilà,
qui là sont plus un accompagnement.
qui eux sont obligatoires. Et attention, si on n'est pas présent à ces séances de travaux dirigés, à ces TD, sans aucune justification, ça veut dire qu'on a mis ça, son année en danger. Puisque une absence injustifiée, comme on appelle, c'est-à-dire sans explication, ça conduit à être défaillant. Et quand on est défaillant, ben on n'a pas son diplôme et on ne peut rien capitaliser, on ne peut valider aucune matière de son année. Donc attention, hein, les cours sont pas obligatoires, on ne parle que des cours magistraux en amphi, ce qu'on appelle les grands messes, où il y a le prof d'un côté et tous les étudiants de l'autre. Et il faut quand même prévenir nos étudiants, alors uniquement dans la licence droit, parce qu'il faut peut-être dire que la faculté propose bien d'autres diplômes.
On va avoir l'occasion d'y revenir.
Mais dans la licence droit, il y a deux amphis en première année.
C'est-à-dire deux groupes
Deux groupes,
séparés qui ont les
voilà.
mêmes cours mais à
Voilà.
différents horaires.
Et dans chacun de ces amphis, dans chacun de ces groupes, il y a à peu près 350 étudiants. Donc,
Ça fait beaucoup.
ça fait beaucoup. C'est peut-être le premier changement. C'est pas obligatoire, on est nombreux. Alors vous pouvez en effet rester au lit plutôt que de venir en cours. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chance de réussite.
Alors justement, sur ces motivations, on va profiter de cette émission pour s'attaquer un petit peu à une croyance populaire. Il faut savoir que la faculté n'est pas le seul pôle, ni le seul système d'études supérieures tourangeau. Il y a aussi l'IUT de Tournord. Lorsque j'ai commencé mes études supérieures, ma maman m'a dit, va à l'IUT, ne va pas à la fac parce que tu vas passer ton temps à boire de la bière. Qu'est-ce qu'on peut
Vous aimiez
répondre?
la bière déjà?
J'aimais déjà la bière, ce n'était pas le problème, c'était la symbolique.
Alors, il y a en effet une différence entre ce que proposent les IUT, celui de Tours et celui de Blois, puisqu'il y a les deux sites, et ce que proposent les facultés. Et il est vrai qu'il faut réfléchir pour chaque individu, pour chaque étudiant, de savoir quel est le système qui lui correspond le mieux en début d'études supérieures.
Alors, qu'est-ce qu'il faut considérer pour savoir, pour choisir?
Alors, la première des questions à se poser, IUT ou fac, est-ce que dès aujourd'hui, j'ai un minimum d'autonomie? Ou est-ce que j'ai besoin, parce que c'est pas un reproche, c'est comme ça, parce que j'ai besoin d'être constamment encadré et d'une certaine façon, entre guillemets, contraint. Parce qu'en IUT, vous n'avez pas le choix de rester au lit ou de venir en cours. Et vous êtes toujours en petit groupe d'une trentaine ou quarantaine de personnes. Donc l'IUT ressemble plus à un lycée que l'université, en tout cas dans ses composantes de faculté. Donc la première des questions, c'est ça. Est-ce que je peux, moi, décider tout seul d'être un étudiant assidu ou pas.
En revanche, on peut aussi peut-être prendre le problème à l'inverse, c'est-à-dire que pour certains qui sortent du lycée, qui ne supportaient pas trop cet encadrement, il y en a aussi se plaisent et se complaisent dans le système fac.
Ah ben, qui même s'épanouissent, hein.
C'est oui, plus
S'épanouissent
qu'au
dans le
lycée.
système. Ah ben, bien sûr. Ah ben bien sûr, très nombreux sont les étudiants, voire les très 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 anciens étudiants qui ont fait la fac et qui sont devenus professeurs depuis, qui ont senti un vent de liberté et un intérêt tout à fait intellectuel, tout à fait nouveau en arrivant à la faculté. Alors que
c'est votre cas ?
Ouais, c'est à peu près ce que je voulais dire, oui.
D'accord.
C'était, oui, c'était mon cas et on est assez nombreux dans avoir eu ce sentiment-là où le lycée, ça va. Pointer entre guillemets à longueur de temps, ça va, je peux aussi choisir. Et c'est vrai que l'université vous permet de choisir tout en accompagnant les étudiants dans leur choix.
Alors, vous avez dit en première année, deux amphis, en tout cas en droit, deux amphis de 350 personnes. Dans les autres filières, il y a à peu près...
Alors, il y a, dans les autres filières, il y a moins d'étudiants. Ce qui est logique d'ailleurs. Le deuxième gros amphi de première année, à côté de la licence droit, c'est la licence AES. Mmh. Où en effet, il n'y a qu'un seul amphi, il n'y a pas de dédoublement, mais ils sont quelques 300 en première année.
Ouais, on va y revenir de toute façon, dans tous les cas, toutes les sections sont plus ou moins nombreuses.
Sont plus ou moins nombreuses. Alors, juste rapidement, nous on s'appelle Faculté de droit, économie et sciences sociales. Alors sous cette appellation-là se cache plusieurs offres de formation, plusieurs filières, plusieurs diplômes.
On va y revenir juste après. On finit juste là-dessus sur le fait qu'il y ait beaucoup d'élèves en première année. Donc ça fait, si mes calculs sont justes, 700 élèves.
En première année de droit,
en deuxième année, il y en a combien ?
Ça dépend des années. Alors,
à peu près.
Écoutez, comme j'enseigne une des matières obligatoires en L de droit, j'ai sur le papier un amphi, puisque ça regroupe la licence droit et les étudiants de la licence droit langue, puisque les cours sont obligatoires pour ces deux licences. Je vais vous faire peur. J'ai 530 étudiants dans l'amphi de deuxième année, ce qui est plus que les années passées. Faut bien comprendre, et je pense que c'est important que les étudiants le sachent, et peut-être encore plus que les parents des étudiants le sachent, il n'y a pas de numerus clausus. Autrement dit, ce sont de véritables examens et non pas des concours.
S'ils ont la moyenne.
Si on a 10, on passe. Voilà. Et donc, tout dépend des années.
Mais quand même beaucoup de recalés.
Beaucoup de recalés de première en deuxième année, pas mal de recalés entre la deuxième et la troisième année.
Plus entre la deuxième et la troisième année ?
Non, pas plus, mais non, pas plus, même moins. Hein. Mais quand même, encore un niveau important d'échec, en tout cas de redoublement. Bon. Alors, ça s'explique comment ? Parce que
c'est ça la question suivante.
Je n'attendais pas moins de vous. Alors, l'échec de la première année peut s'expliquer, premièrement, par le fait qu'il n'y ait aucune sélection à l'entrée dans n'importe quelle licence, l'entrée à l'université. Ça veut donc dire que tous ceux qui ont l'un des bacs, généraux, techniques ou professionnels, ont la possibilité de s'inscrire en première année de n'importe quelle faculté. D'accord. Or, et on y tient au fait de pouvoir accueillir tout le monde. Mais le fait de pouvoir accueillir tout le monde, ça exige de nous un certain nombre de choses, c'est-à-dire d'informer, et c'est l'intérêt des JPO d'aujourd'hui, c'est d'informer nos futurs étudiants des prérequis qui sont nécessaires. Parce qu'on accueille tout le monde, mais c'est pas pour envoyer les gens au carton. C'est pour leur donner les moyens de réussir. Et la première réussite, c'est de savoir ce qui les attend. Et à l'université, dans notre faculté, les prérequis, en tout cas en droit, sont des prérequis de conceptualisation. Il faut savoir conceptualiser. C'est pas un lycée professionnel. Hein. Ça veut donc dire que le bac qu'on a eu et la façon dont on a suivi ses études secondaires doivent vous avoir donné cette faculté de conceptualisation. Une faculté de synthèse, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire faire la différence entre l'accessoire et le principal, entre ce qui est le plus important dans la construction d'un système juridique.
C'est toujours dans le principe d'autonomie.
Voilà. Et vous comprenez bien que toutes les formations secondaires ne donnent pas ces prérequis. parce que c'est pas le but de leur jeu à eux.
Et à l'inverse, quelqu'un qui a par exemple fait un bac scientifique, est-ce qu'il peut prétendre en économie ?
Oui. Alors, il faut bien comprendre que dans nos filières, que ce soit... Alors, en droit, c'est sûr. Il y a, et je voudrais dire aux titulaires ou aux futurs titulaires d'un bac littéraire, qu'ils ont autant de chances de réussir en droit que les bacs ES ou les bacs S. Je sais qu'ils ont moins confiance en eux que les autres. Et je dois leur dire, il faut leur dire, il faut qu'ils le comprennent, ils ont autant de chances de réussir.
Alors, on est en train de s'axer sur le droit plus particulièrement, mais alors, cette faculté présente, du moins au de Lyon, présente 6 mentions générales. Alors, je vous propose un petit challenge, celui de faire une présentation rapide de chaque en une phrase. On commence par AES.
Alors, AES, licence pluridisciplinaire par essence, qui vous donne donc énormément de compétences, que ce soit en droit, en économie, en gestion, en compta, en maths. Et donc, c'est une filière extrêmement complète qui est très exigeante, justement parce qu'elle est pluridisciplinaire. Donc, c'est exigeant. Il faut aimer autant l'éco que le droit, que la gestion, etc., etc., que l'histoire, parce que c'est une licence qui permet de déboucher sur énormément de métiers très valorisés, surtout à la sortie du master.
Alors, ensuite, économie.
Alors, économie. Économie, c'est une de nos licences qui débouche actuellement sur 2 masters. Alors, l'économie nécessite véritablement des compétences mathématiques, et je le répète, extrêmement poussées. Si vous n'êtes pas bon en maths, vous allez avoir des problèmes pour réussir cette licence en économie, puisque bien évidemment, l'analyse économiste est aussi littéraire, mais se base sur beaucoup d'économétrie et donc...
Beaucoup de mathématiques.
Beaucoup de mathématiques.
Donc les allergies aux maths, c'est pas là.
Au secours.
La gestion, la licence gestion.
Alors, la licence gestion, pour l'instant, on ne rentre pas en première année de gestion.
D'accord.
Puisque pour l'instant, mais c'est l'une des dernières années, on ne peut rentrer dans la filière gestion qu'à partir de la 3e année, en L3. Il n'y a pas de première et de deuxième année. Nous sommes en train de le retravailler, mais ce système actuel de la L3 suspendue, comme on dit, va encore durer 2 ans. Et donc, pour pouvoir rentrer en gestion, il faut faire auparavant une autre formation. Le plus souvent, c'est l'économie, mais ça peut être aussi à l'IUT, par exemple, la filière GEA. Gestion,
d'accord.
Voilà.
D'accord. Ensuite, la licence géographie.
Alors, la licence géographie, c'est une originalité de notre faculté. Nous l'accueillons à la fac de droit, économie et sciences sociales. Ce qui est d'ailleurs un plus pour tout le monde, et pour les géographes, et pour nous. Alors, la géo, ce n'est pas uniquement pour devenir prof de géo. Enfin, d'histoire géo, d'ailleurs, parce que c'est ça. C'est un des débouchés, évidemment, mais grâce justement au rapprochement de la géographie avec notre faculté, on a créé et multiplié des masters pluridisciplinaires en urbanisme, par exemple. Quand on veut devenir urbaniste, eh bien, il faut de la géo, il faut du droit, il faut de l'économie, il faut de la gestion. Et bien justement, c'est ce qu'on propose. Et puis aussi en environnement. Puisque là encore, l'environnement nécessite et d'être géographe, et d'être juriste, et d'avoir des notions d'économie.
Univers en plus croissant, j'imagine.
Évidemment, donc beaucoup de débouchés.
N'hésitez pas à vous faire embaucher par la COP21. Licence d'administration publique maintenant.
Alors, la LAP. La LAP. Licence d'administration. LAP. LAP. C'est ça. Alors, la LAP, c'est là encore une L3 suspendue. C'est-à-dire qu'on rentre dans cette licence en 3e année. Et la LAP, elle est très originale parce que elle permet d'intégrer dans cette 3e année des gens qui ont 2 années de n'importe quel autre cursus universitaire. Ça peut être des sociologues qui ont 2 années de sociaux, ça peut être des psychologues qui ont 2 années de psycho, etc., etc., et qui veulent préparer des concours administratifs.
D'accord.
Et donc qui, en 3e année, dans le cadre de la LAP, préparent des concours administratifs niveau licence.
Et on peut l'intégrer qu'après 2 ans.
Voilà, absolument.
D'accord. Et on finit donc par la dernière et Je pense que ça s'est senti au long de la conversation, puisque c'est quand même la grosse licence de cette faculté, même s'il ne faut pas négliger les autres, le droit. La licence droit dont nous allons parler maintenant. Pourquoi on l'a dit plus importante? Car la licence droit est très prestigieuse. Celle de Tours, la nôtre. Celle de Tours. Et d'après le dernier classement, deuxième de France, juste derrière Assas. D'où quand même une qualité dont vous êtes fier, j'imagine.
Nous sommes très fiers de la licence, même en dehors de tout classement national. Ça fait maintenant plusieurs années, je ne sais plus combien d'années, mais plusieurs années, que nous sommes dans ce classement publié par l'étudiant depuis longtemps. Et depuis longtemps, on était quatrième. Derrière, trois licences parisiennes. Et on se disait que derrière trois licences parisiennes, on était quand même très bon, puisqu'on était déjà la première licence de province ou de région, comme on dit.
Je m'en souviens, quand j'étais rentré à la fac, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu. Première licence de province.
Voilà. On vous l'a bien vendu, d'ailleurs. Et là, cette année, on est passé de la quatrième place nationale à la deuxième place nationale. Donc, on est toujours première licence de province, mais on est passé devant quelques licences parisiennes. Alors, en effet, on n'est pas peu fiers. Et on n'est pas peu fiers parce que ça correspond, puisque ce sont les étudiants qui principalement donnent leur avis sur ce cursus, justement du ressenti des étudiants, du retour des étudiants, et que c'est grâce à eux que nous avons pu faire ce saut qualitatif. Alors, les critères de ce classement, c'est tout d'abord, alors ce qu'ils appellent dans le classement l'insertion professionnelle, ce que je préfère dire la poursuite d'études, puisque insertion professionnelle après une licence, c'est relativement rare. Et c'est plutôt la poursuite d'études en master. Et ce que l'on remarque, c'est que nos étudiants qui font leur master ici réussissent, mais c'est pas tellement ça qui est le plus révélateur, c'est que les étudiants qui partent faire des masters ailleurs, dans des très grosses universités, Paris 2, Paris 1, Bordeaux par exemple, eh bien ce sont les meilleurs des étudiants dans ces cursus de master à l'extérieur. Ça veut donc dire qu'ils ont un bagage qui est reconnu au plan national. Alors ça, c'est la première chose. Le second critère, le deuxième critère, puisqu'il y en a trois, le deuxième critère, c'est les relations internationales. Autrement dit, tout ce que la faculté propose comme mobilité aux étudiants, c'est-à-dire la possibilité d'aller passer 6 mois ou 1 an à l'étranger, dans une université étrangère, ce qui est une expérience extraordinairement enrichissante. Et le troisième critère, c'est le degré de satisfaction des étudiants de licence, et ce qu'ils mettent en avant le plus souvent, c'est la qualité des enseignants, mais je passerai rapidement, évidemment, modestie oblige. C'est la disponibilité des enseignants et l'équilibre du parcours.
D'accord, donc une deuxième place basée sur des critères a priori objectifs. Alors, on le redit, ce n'est pas la seule licence, parce qu'on la présente, forcément, on a tendance à la mettre en valeur. N'hésitez pas, si vous préférez l'économie, la gestion, la géographie, d'aller dans ces licences-là. C'est quand même une importante aussi par le nombre, on l'a dit tout à l'heure, qui accueille le plus d'élèves. Alors, ça paraît un peu paradoxal, puisque pour un jeune lycéen qui vient de passer son bac, il n'a a priori jamais fait de droit.
Vous êtes tous à égalité.
Donc, les 700 élèves qui arrivent en L1, ils font ça un petit peu à l'aveugle, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez lui présenter ce que c'est que le droit qu'il essaie de s'imaginer?
Alors,
question complexe.
Oui. Le droit, contrairement, et heureusement d'ailleurs, à l'idée, contrairement, heureusement, à l'idée qu'on pourrait s'en faire, ça ne se résume pas à un ensemble de textes, de normes qui s'appliquent obligatoirement aux individus, aux États, etc. Si ce n'était que cela...
C'est pas du par cœur.
Surtout pas. Surtout pas. À quoi ça sert le droit? Quelle est la fonction? C'est une fonction éminemment relative. Ça ne fait que tenter d'organiser une société à un moment donné. C'est au service d'un projet de société, donc à un projet très globalement politique. Et pour mettre en œuvre un projet politique, eh bien, il faut des règles. Et l'intérêt du droit, c'est pas tant de connaître les règles, il faut les connaître, ok. Mais c'est de comprendre pourquoi cette société-là, aujourd'hui, a promulgué telle ou telle règle, telle ou telle norme. C'est donc, et c'est l'une des qualités qu'il faut pour être un bon juriste, c'est d'avoir une grande curiosité sur le monde qui vous entoure. Parce que vous ne comprendrez pas le droit si vous ne comprenez pas la société, si vous ne comprenez pas l'économie, si vous ne comprenez pas les problèmes sociaux de notre pays et du monde.
Il y a autre chose aussi que les élèves de licence 1 de première année rapportent beaucoup. C'est, ils disent que le droit, c'est une langue et qu'il faut l'apprendre. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Est-ce qu'on dit aux médecins que leur science nécessite une langue qu'il faut apprendre?
A priori, non.
Eh bien, c'est la même chose pourtant. C'est la même chose. Lorsque on fait de l'anatomie, on apprend comment s'appelle tel et tel muscle, tel et tel os, pour avoir une vision d'ensemble de ce que c'est qu'un corps humain. Quand on fait du droit, il faut aussi apprendre pareil, comment s'appelle telle et telle technique, telle et telle notion, pour avoir une conception globale de ce que c'est que le corps social et la société. C'est la même chose. Il y a, alors c'est un piège pour les étudiants de première année, il y a des mots qui ont un sens en français, qui n'ont pas tout à fait le même sens en droit. Parce que le droit, c'est quand même une technique au service d'un projet politique.
Donc, on conseille les lectures, de bien aller en cours, etc., pour apprendre cette langue. Alors, l'étudiant ou le lycéen qui est en train de nous écouter et qui hésite, là, je pense que depuis la description, il se pose encore quelques questions, il hésite. C'est à vous maintenant, comment le convaincre?
De faire du droit?
Pourquoi devrait-il faire du droit? Pourquoi ne devrait-il pas en faire? A priori, quel profil doit-il avoir? Qu'est-ce qu'il apprécie? C'est très mal posé comme question.
Oui,
j'arrive pas à le formuler. Je vais la reposer. Alors, comment lui donner envie de faire du droit, tout simplement?
Alors, premièrement, beaucoup d'étudiants s'inscrivent en droit avec, soi-disant, un projet professionnel. Mais alors, tout petit déjà, l'étudiant en droit voulait devenir avocat. Voulait devenir juge pour les enfants, voulait défendre la veuve et l'orphelin, voulait devenir notaire, j'expliquerai pas les raisons pour lesquelles il voulait devenir notaire, enfin bon, etc., etc. Et heureusement, au cours de leurs études de droit, ils apprennent qu'il y a beaucoup d'autres métiers, beaucoup d'autres débouchés, et heureusement tout le monde ne devient pas avocat, notaire ou juge pour enfants. Donc, et d'ailleurs, beaucoup aussi d'étudiants, en première année ou même après, s'inscrivent en droit parce qu'ils savent pas trop quoi faire. Et que l'intérêt de la fac de droit, d'abord, c'est qu'on sait pas ce que c'est que le droit, donc on n'aime pas les maths, on n'aime pas, pourquoi pas le droit. Et puis, ce que l'on sait, c'est l'un des atouts de notre formation, c'est que, justement, il y a une variété de débouchés professionnels tellement énorme, entre les banques, les assurances, les organisations internationales, l'Europe... etc., etc. Donc, tellement de débouchés professionnels qu'on se dit, et on n'a pas tort, qu'on trouvera bien, à un moment ou à un autre, l'emploi, le métier qui vous ira. Alors, donc, c'est pas le métier, puisque on les connaît pas. Enfin, l'étudiant de première année les connaît pas. Alors, c'est quoi? C'est la curiosité d'essayer de comprendre comment fonctionne notre société, comment fonctionne le monde. Peut-être une curiosité pour savoir comment fonctionne l'Europe, l'Union européenne, ça peut être intéressant aujourd'hui. Comment fonctionne l'État, notre gouvernement, nos règles étatiques. Il y a peut-être des choses à décrypter aussi dans l'actualité. Bon. Donc une grande curiosité de la réalité sociale, politique, économique. Si vous n'avez pas cette curiosité, vous allez vous ennuyer en droit.
D'accord, donc je crois qu'on l'a un petit peu aidé, du moins j'espère qu'on vous a aidé, chères auditrices, chers auditeurs, à savoir si le droit était bien ou pas. Donc ça, c'était pour la licence droit, mais je lis sur votre CV que vous êtes aussi responsable des droits langues, qui est une autre licence. Alors qu'est-ce que les droits langues?
Alors, la licence droits langues, elle a été créée à l'université de Tours en 2001, C'est une licence qui est assez rare sur le plan national. Il y en a 5-6, pas plus, dans 5-6 universités donc, qui se répartissent sur le territoire français. Le but du jeu de cette licence, c'est de donner une double compétence aux étudiants, une compétence en droit et à égalité, une compétence en langue. Et donc, c'est organisé par la fac de lettres et langues, administrativement, mais en collaboration, évidemment, avec notre fac de droit. Ça veut donc dire que cette double compétence, elle est reconnue, d'ailleurs, depuis 2012, par une double licence. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, c'est un énorme plus pour les licenciés, vous avez et une licence de droit, et une licence de lettres et langues. Ce qui veut dire que vous pouvez faire une poursuite d'études dans n'importe quel master de droit ou dans n'importe quel master de lettres et langues.
Alors, cette licence, on la recommande plutôt à ceux qui sont relativement à l'aise en langue de base ?
Ah bah oui, il vaut mieux quand même, hein, parce que le niveau...
Il ne faut pas y aller en espérant apprendre une langue.
Ah non. Non, il faut d'abord avoir une appétence pour les langues évidentes, mais il faut aussi avoir, au lycée, avoir eu un très bon niveau de langue, parce que... Que fait-on dans les enseignements de langue ? Alors, anglais, anglais-allemand, anglais-espagnol, anglais-italien. Donc, vous pouvez prendre soit l'anglais, simplement, soit deux langues. On vous parle en anglais tout le temps, ou en allemand tout le temps, ou en, voilà, etc. Et ce que l'on étudie, c'est pas « j'apprends à commander le thé à Londres », c'est « j'apprends les concepts juridiques des systèmes ». Étranger.
A priori, ça a l'air plus complexe.
C'est plus complexe, enfin moi je ne sais même pas commander le thé, mais c'est plus complexe, évidemment, et ça permet de déboucher sur tout un tas de métiers, que ce soit dans le privé ou dans le public, qui nécessitent évidemment d'être très bon en droit français, c'est la moindre des choses, mais aussi de connaître à fond les systèmes juridiques étrangers, et donc toutes les entreprises multinationales, elles ont besoin de gens qui ont cette double compétence, toutes les organisations internationales, le Parlement européen, etc. etc. Donc il y a une foule de débouchés pour ces doubles diplômés.
Merci professeur Ophel, doyen honoraire, de nous avoir présenté la faculté des Deux Lions et les différentes licences qui s'y trouvaient. On n'a pas eu le temps malheureusement de parler de la vie extra-universitaire.
Et pourtant elle est foisonnante.
Elle est foisonnante, beaucoup d'associations, c'est aussi important de dire ça aux lycéens. Vous allez découvrir le monde de l'initiative, vous pouvez rejoindre des associations événementielles, aussi les associations Radio Campus Tour que vous écoutez, qui est une association dont vous pouvez participer bénévolement dès maintenant ou quand vous êtes étudiant. On vous invite à rechercher tout ça, à voir, à vous intéresser à l'université et peut-être à la rejoindre l'année prochaine si ça correspond à votre orientation. Moi, je te rends l'antenne, Mathilde.
Radio Campus Tour, 99.5 FM.